Chapitre 9. Les Guatussos. Le lendemain matin, M. le conseiller Ravanata, en sa qualité de secrétaire de la présidence, fut admis au petit lever. Son Excellence avait admirablement dormi dans les draps de l'État. On lui avait déjà servi le chocolat des contribuables. Il s'était enquis de Sir Merlitton et d'Orette, qui de leur côté avaient pris un repos bien gagné dans les appartements réservés. Rabata venait, suivant l'usage, apporter au président un mois de son traitement. La marée eut un beau mouvement et un geste dramatique. « Oh, je n'ai que faire de cet argent, » dit-il. « J'ai servi la cause de la liberté pour elle-même et non pour quelques méchants dollars. Consacrer cette somme au budget de l'instruction publique. » La belle réponse du général Labareda ne tarda pas à être connue dans la ville et sa popularité ne fit que s'en accroître. La Chambre se réunit en séance publique. À l'unanimité des 12 représentants, on lui vota comme récompense nationale le plus haut grade dans l'ordre de l'étoile de Costa Rica, un sabre d'honneur, un muletier également d'honneur, chargé de servir la mule Matania et au besoin le président. À Agostin, l'Indrien du Rancho, écrut ce poste et on l'envoya aussitôt avec le secrétaire Rabata demander à la Barretta s'il ne désirait rien de plus. « Si, répondit-il après réflexion, je désire qu'on me donne un bon revolver avec 100 cartouches. Si l'on veut y ajouter une caisse de biscuits de mer, cela me fera plaisir, maintenant que j'ai une mule pour la porter. Enfin, ce que je demande avant tout, c'est de m'en aller. » En apprenant ce vœu intempestif, les pouvoirs publics sourirent et le peuple gronda. Magnanime liberador, avait-on dit jusqu'il refusait le traitement. Mauvais citoyen, disait-on lorsqu'il voulait quitter le palais. Les partisans de Guzman et de Zelaya commençaient même à répandre des bruits étranges, échos du téléphone que nous avons entendu. Le héros de Cambo, comme on l'avait surnommé le 23 juin, était soupçonné de félonie et de haute trahison le 25. Deux jours après son élévation à la présidence, il était accusé, tout bas, mais avec persistance, de conspirer contre la sûreté de la République. Cette rumeur légère allant rinforzando et crescendo, ainsi que tout bon air de calomnie, prit bientôt de telles proportions que la Chambre, cédant au mouvement, décréta qu'une garde spéciale commandé par le patriote général Zelaya, surveillerait étroitement et sans cesse le président Labareda. Comme Massaniello, il connaissait en très peu d'heures les redoutables revirements de l'opinion publique, et notre ami, ainsi gardé à vue en compagnie des deux Anglais, maudissait sa grandeur, l'attachant à sa capitale. « Mais que faire pour que vous vous en alliez ? « Puisqu'il refuse votre démission ?» demanda Miss Orette. « Oh, m'en rapporter à la Providence, qui m'a déjà tiré de plus d'un mauvais pas. » À peine avait-il prononcé cette sentence, philosophique et fataliste à la fois, que, malgré la noblesse de sa fonction, monsieur le président de la République costaricienne s'étala tout de son long par terre dans le salon où il causait avec ses amis. Dans cette posture peu majestueuse, Sir Merlitton grognant et Miss Orette riant le rejoignirent incontinent. « What is ?»« Mais parbleu, mais c'est un tremblement de terre, une des 60 oscillations annuelles dont je vous ai parlé. Le palais semble mollement bercé. » Ils essayèrent de se relever, mais il leur fut impossible de se tenir debout. Secoué comme une salade dans son panier, il s'était assis à la turque, loin des meubles chancelants ou renversés. Un bruit rapproché de vaisselle cassée se mariait avec un lointain grondement de foule affolée. Le seul serviteur resté dévoué, l'Indien Agostin, entra en ce moment et trouva toute la société présidentielle accroupie. Excellence, dit-il, ne reste pas une minute de plus dans ce palais qui va s'écrouler. Sortir d'ici, s'écria Armand, mais je ne demande pas mieux, seulement la garde du général Zelaya va m'en empêcher. Oh, la garde s'est dispersée, le général est loin. Nous connaissons cela, nous autres du pays. Les mouvements de la terre vont augmenter en nombre et en durée. Regarde, tout le monde fuit et court. Les volcans fument plus que jamais. C'est un tremblement de terre plus fort peut-être que les trois derniers. Avec une promptitude que l'on comprend, nos trois voyageurs s'enfuirent, laissant là le capitaine San José et la présidence de Costa Rica. Agustin avait scellé les mules, amarré la caisse de biscuits, don national. Chacun, armé et équipé en quelques secondes, avait sauté sur les montures, et la petite caravane prit du large, guidée par l'Indien. Il avait eu raison, ce fils de la terre américaine. Le palais s'écroula derrière eux avec un effroyable fracas. Bêtes et gens avaient perdu la tête. Les mules dressaient les oreilles devant ce danger qu'elles ne voyaient point et dont leur seul instinct les avertissait. La catastrophe fut si soudaine que nul, dans le péril général, ne s'aperçut du départ du président. On ne s'occupait que des colères de la nature. L'homme, en pareil cas, se fait petit, et plus d'un brave tremble. Après 2 heures d'un galop effréné, ayant sauté par-dessus des crevasses nouvelles, franchi des torrents devenus des routes desséchées et des chemins transformés en torrents, reconnaissant à peine le paysage bouleversé par ce rapide changement à vue, Agustin fit ralentir l'allure échevelée que l'on gardait depuis San José. Il était évident que l'on était sorti de la zone où se produisait le bouleversement cosmique. On pouvait respirer un peu et examiner la situation. Pour se reconnaître, Armand ne pouvait compter que sur l'expérience d'Agustin. « Dans quelle direction marchons-nous ? » lui demanda-t-il. « Au sud-est, pour tourner le dos au volcan. » Ah, c'est-à-dire que nous nous dirigeons vers l'Atlantique. Oui, vers notre océan à nous, la mer Indienne. Quelle ville voyons-nous devant nous là-bas ? Cartago. Le chemin de fer n'y passe-t-il pas ? Ah, la route des ingénieurs, en effet. Mais que veux-tu dire ? Je parle du chemin tracé par les Anglais sur des lignes de fer et d'acier. Rien ne t'empêche de l'apprendre de gagner le Limón par Rossi et Angostura. Là, tu pourras t'embarquer puisque tu veux partir. Certes, je le veux, mais ce n'est pas cette route que j'aurais désiré prendre. Et, se tournant vers ses amis, il ajouta, « Je ne vais pas être plus avancé qu'en arrivant à Colón, puisque nous allons nous retrouver sur la rive de l'Atlantique. » Le principal était pourtant de quitter San José, répondit sagement Merliton. À Cartago, les effets du tremblement de terre s'étaient fait sentir avec un peu moins de violence. Mais le public n'en était pas moins agité. Et dans le péril universel dont chaque habitant prenait sa part, on ne remarqua pas plus que les autres ces 4 voyageurs. L'affolement général était tel qu'Agustin put faire monter les mules et les bagages dans un wagon vide, qu'Armand et ses amis les y rejoignirent sans attirer l'attention, et qu'il échappa à cet autre danger d'être reconnu et arrêté comme Louis XVI à Varennes. Le train s'ébranla. Au pied de l'énorme volcan de Turrialba, qui n'a pas loin de 12 000 pieds anglais, à la station de Tucurique, Missoret se rejeta vivement au fond du wagon. Elle était pâle et tremblait. Et, désignant du doigt un groupe de gens venant aux nouvelles, « Don José !» dit-elle d'une voix étranglée. « Lui, le gredin !» s'écria la Varède en voulant s'élancer, mais elle l'arrêta doucement. « Vous n'avez pas peur de lui, je le sais, mais... S'il est encore dans ce pays, s'il est revenu, c'est pour se venger de vous. Comme tout le monde, il a dû apprendre par les dépêches télégraphiques que vous étiez gardé à vue dans le palais présidentiel. S'il voit l'un de nous, vous serez signalé, pris et ramené dans la capitale. C'était raisonner avec justesse. Armand se rendit à ses observations et l'étape fut franchie sans obstacle. Seulement, la Varenne résolut de quitter le chemin de fer construit par les ingénieurs anglais à quelques stations intermédiaires. Augustine fut consulté. Il était facile, selon lui, de s'arrêter près de Calabozo. Et comme il avait compris qu'on voulait surtout éviter d'être rencontré et reconnu, il indiqua que l'on reprendrait le voyage à mulet et que l'on traverserait le pays des Indiens Talamancas. C'est, dit-il, la contrée la plus déserte de tout le territoire. Allons, cela va recommencer comme avec Ramon. Mais du moins, c'est la liberté. Sir Marliton, je crois qu'il faut pour un temps dire adieu au roast beef de la vieille Angleterre. Nous rentrons dans le paradis des galettes de manioc et des tortillas de maïs. La caravane descendit, comme Augustine l'avait conseillé, à un passage à niveau non gardé, évitant ainsi les réclamations pécuniaires de la compagnie, et, se dirigeant vers le sud-est, suivit le flanc intérieur des montagnes en s'efforçant de voir au moins une fois chaque jour la mer au loin sur sa gauche afin de ne pas perdre sa direction. Seulement, ce que nos amis ne remarquèrent pas à Calabozo, ce fut Don José qui, les ayant aperçus à Tucurique, était monté dans le même train et les observait prudemment. Les ayant vus s'engager vers cette contrée presque inhabitée du versant atlantique, il savait, lui qui connaissait le pays, dans combien de jours il pourrait les retrouver et où ils devaient arriver à la fin. Il ne pensait certainement pas à obéir à la Constitution et à ramener le président fugitif. C'était pour servir sa propre vengeance et les intérêts de Bouvreuil qu'il était en Costa Rica. Miss Aurette s'était légèrement trompée en le croyant revenu. Il n'était pas parti. Embarqué de force sur un caboteur mexicain, il s'était arrêté avec son compagnon à la première escale après la Limón, à l'embouchure du San Juan de Nicaragua. Puis, ayant envoyé Bouvreuil, attendre à Colón, où les communications sont faciles avec toute cette partie de la côte, il était entré dans le nord du Costa Rica, muni d'une belle somme d'argent exigée de son complice, et là, il s'était mis en rapport avec un chef des Guatusos, indien qui habite entre le Nicaragua et le Costa Rica. Nous ne tarderons pas à connaître la suite de sa démarche. Pendant les premières journées de route, les incidents du voyage de la Varenne et des siens n'offrirent aucune particularité inquiétante. La seule difficulté matérielle était le passage des rios torrentiels qui descendent des montagnes. L'aide des Indiens et de leur radeau fut précieuse. Le 3 juillet, ils atteignirent les premiers contreforts des Montes Negros en évitant les villes de Bribri et de Coabré sur la rive droite du Rio Dorado, car la Varenne ne se souciait point de rencontrer les autorités costariciennes. « J'aime mieux les sauvages, disait-il, au moins, ils ne construisent pas de prison. » Ayant trouvé au flanc d'un mamelon abrupt une sorte de ruine qui avait dû être au siècle précédent un rancho abandonné depuis, ils y avaient passé la nuit, lorsqu'au lever du soleil, les mules se mirent à hennir d'une façon particulière. Augustine, avec son flair d'Indien, déclara qu'il devait y avoir du danger aux environs. Il examina la campagne et bientôt, désignant un point lointain, assez loin vers le nord-ouest, à peu près sur les traces de notre route d'hier, je distingue une autre caravane, Elle paraît nombreuse. Il y a au moins une trentaine de chevaux et de mulets. Une inquiétude prit la varède. Est-ce que ce sont des soldats? Non, il me semble reconnaître l'accoutrement des Indiens. Alors, pas de danger. Aucun, si ce sont des gardes de troupeaux ou des nomades voyageant en tribu. Oh, je les vois un peu mieux à présent. Ils sont armés presque tous de fusils. Cela m'étonne car les indigènes du Talamanca ne sont pas grands chasseurs. Ils pêchent plus volontiers qu'ils ne chassent. Quelques minutes se passèrent encore. Les quatre voyageurs avaient les yeux fixés sur ce groupe lointain qui se rapprochait et que les rayons du soleil levant commençaient d'éclairer. Tout à coup, Agostine blêmit. Lui qui jusqu'ici ne semblait pas aisé à effrayer, il claquait des dents et montrait les signes de la plus vive épouvante. Qu'y a-t-il? Qu'as-tu? Ce sont les Guatoussos! Eh bien, mais les terribles Guatoussos, les Indiens au visage pâle, aux yeux bleus, aux cheveux roux. On dirait des Anglais à ce signalement, fit Sir Merliton. Hélas, oui, ce sont les fils d'une bande de pirates anglais égarés il y a 100 ans sur les bords du Rio Frio et qui ont apporté dans la tribu qui les a recueillis des mœurs féroces et sanguinaires. Que dites-vous là? Oh, la vérité, malheureusement. Les Guatoussos ou Pransos sont capables des plus grandes cruautés. Si c'est à nous que ceux-ci en veulent, nous sommes morts. Mais, interrompit Armand, comment se fait-il que ces sauvages habitant au nord du Poas soient venus ici, dans le sud du territoire? Ben, excellent, je ne me l'explique pas. Cela, voyez-vous, tueraient leur père pour avoir de l'argent et boire de l'aguardiente. De l'argent, si on leur en donnait pour s'en aller, hasarda Merliton. Mais vous oubliez que nous n'en avons pas dans nos poches et qu'ils doivent ignorer l'échec. Oh non, non, murmura Agostine, ne les attirons pas et surtout ne bougeons pas. Ah, si par bonheur ils pouvaient passer sans se douter que nous sommes ici. Je sacrifierai avec joie au grand esprit. Toi, tu es catholique cependant. Oui, votre grâce, comme tous les Indiens pauvres, mais cela ne nous a jamais empêchés, quand nous sommes en danger ou entre nous, de prier aussi le grand esprit Toulé, le dieu de nos pères et de notre patrie. Dans sa terreur, il avouait ce que, par tradition, les indigènes ont toujours caché avec soin par peur des conquérants espagnols. À ce moment, nos voyageurs purent faire de leur observatoire une inquiétante constatation. Aux appels de leurs mules, d'autres appels avaient répondu. Les 30 cavaliers Guatoussos s'étaient d'abord arrêtés. Ils avaient semblé tenir conseil. Puis, changeant de route, leur groupe compact, précédé d'une dizaine d'entre eux, espacés en fourrageurs, s'était dirigé vers le rancho, escaladant par un mouvement enveloppant le mamelon sur lequel campaient la varède et ses compagnons de route. Si ceux-ci avaient pu conserver encore un doute sur l'intention des Guatoussos, nulle hésitation n'allait plus leur être permise. Miss Aurette, qui avait braqué sur eux sa jumelle, pâlit légèrement et dit: Oh, l'aspect physique de ces Indiens répond bien au signalement que nous en a donné Agostine. De plus, je viens de reconnaître au milieu d'eux notre ennemi, Don José. Quel parti devons-nous prendre? Demanda froidement Merliton, sans que sa voix trahît le moindre trouble. Un seul, fit résolument la varenne, résister. Nous avons des armes, il faut nous en servir et retirer à ces bandits l'envie de nous approcher de trop près. Les rôles furent distribués aussitôt. Les trois hommes s'embusquèrent, abrités par des fragments de murailles, Agostine armé de son fusil, Armand et Murlyton de leurs revolvers à longue portée. Ils attendirent que les premiers cavaliers ne fussent pas éloignés de plus de 200 mètres et firent feu tous les trois ensemble. Deux Indiens tombèrent, le cheval d'un troisième se cabra, il n'obéissait plus à son cavalier, il avait été blessé et redescendit chancelant. Mais le mouvement ascensionnel des assaillants ne s'arrêta pas à cette première escarmouche. Il fallut deux salves nouvelles, qui firent encore 5 victimes, tant chevaux qu'indiens, pour que les agresseurs se décidassent à rebrousser chemin, et par un temps de galop allongé à se placer hors de portée des armes à feu. Mais ils restèrent en vue, à peine dissimulés par un pli de terrain et un bouquet d'arbres tropicaux. « Leur attaque par surprise n'a pas réussi, » dit la Varenne, « observons-les attentivement, car ils ne s'en tiendront pas là. » À l'aide de la jumelle anglaise, on voyait distinctement ce qui se passait. Les blessés et les morts étaient étendus au nombre de 5 sous un arbre auprès d'un petit cours d'eau. Un guatusau les gardait et les soignait. Agostine aperçut 2 cavaliers placés en vedette de façon à ne pas perdre de vue le rancho sur la gauche et sur la droite. À l'exception de ces 2-là, les autres avaient mis pied à terre et une palabre s'engageait. À leur geste désignant le mamelon, on pouvait deviner qu'ils concertaient une agression nouvelle, plus prudente sans doute. Et nos amis redoublèrent de surveillance, se tenant sans cesse sur leur garde. Mais, à leur grand étonnement, la journée tout entière se passa de la sorte. On s'observait mutuellement. Agostine fit remarquer que les forces des gens et des bêtes avaient besoin d'être soutenues. On avait quelques boîtes de conserve, plus le don national, la fameuse caisse de biscuits de mer. Les 4 convives firent largement honneur à ces provisions. Quant aux mules, on leur distribua du biscuit concassé et trempé. Dans la montagne, les sources ne manquent pas. À 10 mètres en arrière du rancho, jaillissait justement en un mince filet une source claire et limpide. Cependant, la nuit approchait. Lorsque l'ombre s'étendrait sur le pays, la Varenne redoutait une attaque. Il fut convenu que chacun se reposerait à tour de rôle. On était 4. Murlyton et Orrett dormiraient pendant que veilleraient Armand et Agostine, en se relevant de 2 en 2 heures. Quelque attention que prêtassent les sentinelles, rien ne parut bouger dans la vallée. On percevait des bruits de pas réguliers, indiquant que l'ennemi continuait sa surveillance. Les Guatusos n'attaquèrent pas. Mais au point du jour, les assiégés comprirent que les Indiens avaient changé de tactique. L'assaut brusque ayant échoué, les Guatusas s'employaient un autre moyen. Ils mettaient le blocus. Au lieu d'un seul groupe, nos amis en distinguèrent 6, composés de quelques hommes seulement, mais tenant toutes les issues au nord, au sud comme à l'est. Un seul Indien à cheval, dans chaque poste, veillait sur le rancho entouré. De s'échapper par l'ouest, il n'y fallait pas songer. Derrière le mamelon où s'élevait leur modeste fortification, la cordillère était à pic et dominait la plaine jusqu'à la mer. Les défenseurs tinrent un grave conciliabule. Ils firent le compte des provisions. Pour 4 personnes et 4 montures, il n'en avait que pour 5 jours. La deuxième journée du siège se passa presque gaiement. La belle humeur de la Varenne ne se laissait point. « Tout de même, dit-il à l'anglais, en vous engageant à ne pas me quitter, à me surveiller sans cesse, Vous ne vous doutiez pas de ce qui allait vous arriver. Assurément non. Sans cela, vous n'auriez peut-être pas commencé. C'est probable, mais maintenant je suis accoutumé à votre caractère. Votre esprit aventureux m'intéresse et entre gentlemen, on se doit aide mutuelle. Oh, interrompit Miss Aurette, Monsieur Lavarède ne marchande pas, lui. Il m'a déjà sauvé de tant de périls que je ne suis pas quitte envers lui. Armand sourit et montrant l'horizon où se dessinaient les vedettes Guatoussos, il dit « D'après les prévisions, nous allons cette fois courir les mêmes dangers ensemble. Il me sera bien difficile alors de vous en préserver. C'est pour vous surtout que je tremble, » ajouta-t-il d'un ton grave. « Oh, il ne faut trembler ni pour moi, ni pour vous, monsieur Armand. Qui sait si une nuit prochaine, nous n'allons pas pouvoir échapper à ceux qui nous investissent. Mais c'est à voir, cela. Qu'en dis-tu, Agustin ?» L'Indien ne répondit pas. Le regard obstinément fixé vers le sud-ouest, il paraissait absorbé. Armand lui frappa sur l'épaule. « Que cherches-tu par là ? » demanda-t-il. « Le salut, le chemin pour fuir, pour aller vers des tribus amies. »« Il en est de ce côté ?»« Ah oui, les Visaïtas, puis pas loin ceux du Chiriqui, mais comment échapper au Guatoussos, je ne connais pas tous les sentiers. » Et il reprit, silencieux, sa rêverie dans le vague. De temps en temps, un Guatoussos s'avançait en reconnaissance vers le rancho, comme pour s'assurer que les assiégés étaient toujours là. Un coup de feu le renseignait immédiatement. À ce jeu, les assiégeants perdirent encore deux hommes. On déjeuna après une de ces petites alertes. Seul Agustin, préoccupé et les yeux toujours dirigés sur les pentes de la montagne, ne mangea pas. Avec un sourire, Miss Aurette dit à son père, « Malgré vos banquenotes et vos chèques, sans l'assistance de notre ami, nous mourrions de faim depuis deux jours. »« C'est vrai, M. Lavarène nous a nourris, et non seulement ici, mais encore pendant le temps de la présidence. »« Vous porterez cela en compte, » dit plaisamment Armand. Le plus gravement du monde, Merliton ouvrit son carnet et montra des notes prises antérieurement. « Ah, vous voyez que cela est déjà fait. »« Oh, vous êtes un homme précis. »« Je suis anglais, » répondit-il simplement. Tout à coup, Agustin franchit le mur formant parapet et se laissa glisser au dehors. Il suivait la pente sud du mamelon et, presque rampant, il cherchait à voir quelque chose au loin sans être aperçu des Guatoussos en vedette. Mais il n'y réussit pas. Des coups de fusil retentirent, une grêle de balles s'abattit autour de lui. Dissimulé derrière des roches, il entendait les projectiles crépiter sur la pierre et malgré cela, il continuait sa route. Il ne s'arrêta que sur la crête d'un ravin. Là, couché de tout son long, la tête penchée au-dessus du vide, il observait, fixant dans sa mémoire la carte du terrain qu'il était venu reconnaître, et lorsqu'il se releva, son visage ordinairement impassible exprimait la joie. Puis il reprit le chemin du rancho. La fusillade des Guatoussos se ralentit alors. Les assiégeants étaient visibles, ne voulait que l'empêcher de s'enfuir. « Eh bien, » dit Armand, « qu'as-tu fait? Qu'as-tu vu ?»« Je cherchais une route, mais tous les chemins sont gardés. Nous ne pourrons pas sortir d'ici. »« Cependant, » riposta Lavarède méfiant, « tout à l'heure, tu semblais satisfait. »« Oui, j'étais content parce que les balles des Guatoussos ne pouvaient m'atteindre, mais c'est tout. »« Ah !» et Agostine alla s'asseoir vers les mules, sommeillant ou feignant de sommeiller. Bientôt un nouvel incident vint le tirer de son repos et mettre tous les assiégés sous les armes. Du bas de la vallée, un indien Guatusso montait droit dans la direction du rancho. Parvenu à quelques centaines de mètres, c'est-à-dire arrivé à portée de fusil, il agita un morceau d'étoffe blanche. La Varenne, qui guettait le revolver au poing, dit à ses amis « Ah, dans tous les pays du monde, le drapeau blanc signifie que l'on vient en parlementaire. »« Oui, fit l'anglais, mais je ne me fie pas à ces sauvages. N'est-ce pas un piège ?» Agostine regarda attentivement. « Non, celui-là est seul. Il est évident qu'il demande à s'approcher sans que nous tirions sur lui. » Eh bien, comment lui répondre ? En employant la même langue que lui, agiter un mouchoir blanc, il s'avancera. Aussitôt fait, aussitôt compris. Le Guatusos tenait quelque chose à la main qu'il montrait de loin. C'était un papier, on le distinguait parfaitement à la lorgnette. Il se dirigea encore pendant 100 mètres vers le mouchoir blanc que brandissait Miss Aurett, puis il s'arrêta. Il plaça le papier ostensiblement, piqué sur la pointe d'une feuille de yucca, le désigna par une pantomime expressive et redescendit tout courant, pas rassuré du tout, jusqu'à ce qu'il fût couvert par un repli de terrain vers le bas de la montagne. Agostine alla chercher le message et le rapporta dans le rancho. C'était écrit en langue castillane un ultimatum de Don José ainsi conçu. 6 juillet 1891, à leurs excellences, Sir Murlyton Esquire et Miss Aurett Murlyton. Le préfet de Cambo, gouverneur du district de Golfo Dulce en Costa Rica, a l'honneur d'informer vos excellences que ce n'est pas elle qu'il poursuit. En conséquence, vos excellences peuvent librement reprendre leur route et séjourner sur le territoire de la République avec leurs armes, montures et bagages. Elles auront droit à notre protection. Elles peuvent, de même, emmener comme leurs serviteurs le soldat Agostine de la tribu indienne des Terras Basses, que nous estimons avoir cédé aux injonctions de l'aventurier français, se faisant indûment appeler le général Lavareda, celui que les pouvoirs publics ont déclaré déchu du titre de président de la République costaricienne, qu'il avait usurpé à la faveur d'une insurrection fomentée par lui et désormais vaincue. C'est lui seul que moi et mes fidèles soldats nous voulons prendre et punir. Le préfet-gouverneur donne à vos excellences 24 heures pour se conformer à ses ordres et se retirer où il l'opéra. Faute d'obéir dans ce délai, elles encourront les mêmes pénalités que l'aventurier et leurs compagnons, dont nous sommes résolus à nous emparer, morts ou vifs. Signé Don José Miraflores. La lecture de ce document, qu'Armand traduisit à ses amis, les plongea d'abord dans des réflexions un peu sombres. La Varenne rompit le premier le silence en s'adressant à l'Indien. « Tu es libre, Agostine, tu peux t'en aller. Tu avais tort, tu vois, de t'en redouter les Guatusos. »« Ah, que votre Excellence ne s'y trompe pas, répliqua-t-il. Les Guatusos ne sont pas des soldats du gouvernement. » Et Don José a menti lorsqu'il écrit ces mots. Tu crois ? J'en suis sûr. Mais je ne comprends pas pourquoi il consent à laisser passer son Excellence et la jeune fille. Je devine une ruse, mais je ne sais laquelle. Nous le savons, nous, dit Miss Aurett. Et pour ma part, je suis résolu à ne pas me remettre entre les mains de cet homme. Oui, ajouta Sir Murlyton. Sous le couvert de la politique, ce misérable poursuit une vengeance privée contre vous, la Varède, et un abominable dessein contre ma fille. Il est évident, conclut la Varède, qu'il cherche à nous diviser pour nous affaiblir, et que les Guatoussos, à sa solde, voudraient nous voir sortir de notre inexpugnable fortin. Vous seriez leurs prisonniers, exposés sans défense aux entreprises de José, ce Rastaquer, qui ose me traiter d'aventurier, et moi, je serais sans doute massacré par ces cruels Indiens. Les conclusions d'Armand étaient justes. Les assiégés n'avaient donc qu'un parti à prendre, combattre jusqu'à la dernière cartouche. Cette résolution arrêtée, le journaliste s'assura que les armes étaient en bon état. Quant aux munitions, elles ne manquaient pas encore. Ce jour-là se passa sans incident. Seulement le blocus se resserra. Vint la nuit. Lorsqu'arriva le tour de garde de Lavarel et d'Agostin, l'Indien prit la parole à voix basse pour ne pas troubler le sommeil des Anglais. « La journée de demain peut être dure, dit-il. Il faut que le chef ait le corps dispos et l'esprit alerte d'heure tranquille. Dors toute cette nuit. J'ouvrirai les yeux pour deux. » Lavarède, fatigué par les précédentes veilles, accepta l'offre du soldat et s'endormit profondément. Lorsqu'il se réveilla, le jour pointait à l'horizon. Il jeta un rapide coup d'œil autour de lui dans le rancho. Miss Aurette et son père surveillaient la plaine, mais l'Indien avait disparu. Un soupçon traversa l'esprit du Français. « Où donc est Agostin ?» demanda-t-il. « Je le sais, » fit l'Anglais. « Nous ne l'avons pas aperçu ce matin. » Armand secoua la tête et murmura. « J'aurais dû m'en douter. » Ce fut tout. Il comprenait que l'Indien, étranger aux intérêts en jeu, avait songé à se mettre en sûreté en abandonnant ses amis d'un jour. Au surplus, Agostin s'était montré prudent, mais non pas traître. Il avait soigneusement laissé bien en vue son fusil et ses cartouches. « En résumé, conclut le jeune homme, c'est un mauvais soldat de moins à nourrir. Nous prolongerons la défense de la place. » Sur ces mots, les trois amis se résignèrent à se passer du fugitif. Certains de n'avoir plus à compter que sur eux-mêmes, ils puisèrent dans cette conviction une nouvelle énergie. À partir de ce moment, ils se rationneraient. Une des mules fut mise en liberté comme bouche inutile. La bête, du reste, n'abusa pas de sa situation. Lâchée hors du rancho, elle resta presque tout le jour à brouter sur les flancs du coteau. Vers le soir, un Guatusso la prit au lasso. Du rancho, on entendit les cris de joie qui s'élevaient du campement indien. Les 24 heures données par Don José finissaient. Un assaut était donc à craindre. Aussi, pour la nuit, on modifia la tactique habituelle. Deux défenseurs dormiraient pendant qu'un seul veillerait. La faction ne durerait qu'une heure. De la sorte, chacun avait 2 heures de sommeil sur 3. Au matin, les Guatusos avaient encore rapproché leurs vedettes. Lavarède put en abattre une avec le fusil d'Agostin. Le 7 juillet se passa, lent, interminable, mais la patience manque à ces gens habitués aux rapides coups de main. Le lendemain, leur intention d'en finir apparut clairement. Ils commencèrent à tirer sur le rancho dès qu'une tête se montrait. Cependant, aucun de leurs projectiles n'atteignit les Européens. Une fois encore, les Guatusas modifièrent leur tactique. La nuit, ils creusèrent des trous dans le flanc de l'escarpement et se terrèrent. La Varède se fâcha. Alors, ils établissent leur tranchée indienne, dit-il. Invisibles, ils arriveront jusqu'à nous sans perdre un homme. Il faut à tout prix les obliger à se montrer. Les mules vont nous servir. Les bêtes étaient entravées près de la montagne dans une sorte de patio abrité. Il les amena devant et les attacha de façon que la longe leur permettait d'atteindre les embrasures naturelles formées par les ruines. Instinctivement, les animaux y passaient la tête pour humer le grand air et regarder dans l'espace. Les assiégeants se prirent à ce stratagème et sur ces cibles nouvelles ouvrirent le feu. Un mulet fut blessé à la tête et au garrot. Mais afin de pouvoir tirer, les Indiens s'étaient assez découverts pour signaler leur cachette. Mulleton et Armand firent coup double. Miss Aurette, qui lorgnait attentivement, vit deux Watusos dévaler la montagne. L'un d'eux ne bougea plus, l'autre fut emporté par ses camarades. Furieux, les ennemis se réunissaient au bas du Mamelon. À leurs gestes désordonnés, aux cris de fureur dont l'écho montait jusqu'au rancho, Armand devina que l'assaut était proche. Monsieur Lavarenne, dit Miss Aurette, vous voyez que je suis très calme. Confiez-moi donc votre revolver. Vous prendrez le fusil d'Agostine. J'ai tiré à la cible et vous le verrez. Je ne suis pas maladroite. Quand on atteint la cible, on peut bien abattre un Watusso. Mulleton, toujours placide, appuya en ces termes la proposition de sa fille. Et Lavarenne, plus ému qu'eux, plaça sa vaillante compagne du mieux qu'il était possible, la mule Matania lui faisant un rempart de son corps. L'Anglaise imitait, sans s'en douter, la manœuvre de cavalerie cosaque, qui consiste à couvrir le cavalier de sa monture, derrière laquelle, bien abrité, il tire à l'aise. À peine ces préparatifs étaient-ils terminés, qu'un hurlement retentit. Les Guatusos montaient en groupe compact vers le fortin improvisé. En arrière, quelques Indiens, blessés légèrement dans les escarmouches précédentes, formaient une sorte de réserve. Au milieu d'eux, on voyait leur chef et Don José, celui-ci reconnaissable à son large sombrero. Il se tenait hors de danger, encourageant les autres du geste et de la voix. Les trois défenseurs attendirent que l'ennemi fût à bonne portée. Alors ils ouvrirent le feu. Les assaillants, chargeant en masse, tout coup portaient. En quelques secondes, 6 cadavres furent couchés sur le sol. Autant de blessés se repliaient sur la réserve. Les Guatusos battirent en retraite. L'assaut avait été infructueux. La garnison du rancho avait peu souffert. Mulleton, égratigné au front par une balle, en fut quitte pour s'entourer la tête du mouchoir de sa fille. Les assaillants, refroidis par la réception vigoureuse des Européens, avaient gagné un petit vallonnement des filets des feux du rancho. Mais le répit accordé aux assiégés ne fut pas de longue durée. Criant, hurlant, tirant, les Guatusos reparurent de nouveau. Cette fois, au milieu de marchés groupés, ils se sont formés en une ligne de tirailleurs minces et enveloppantes. Chacun des trois défenseurs va avoir à lutter contre 6 ou 7 adversaires. En vain, leurs armes crachent les balles sans relâche. En vain, ils blessent ou tuent ceux qui se trouvent en face d'eux. « Oh, il y en a trop !» fit Armand avec rage. Son regard rencontre celui d'Aurette. Il y a comme un voile sur ses yeux, mais il n'a pas le temps de s'attendrir. Les Guatusos sont à quelques mètres du mur en ruine. Leur visage grimace la haine. Vision effrayante. C'est la charge d'une troupe de démons. Ils ont jeté leurs fusils. Ils brandissent les terribles machettes qu'ils portent d'ordinaire à la ceinture. Ils atteignent la brèche de la muraille. À bout portant, Labarède foudroie un premier assaillant de sa crosse, il en assomme un autre sur le retranchement même. De son côté, Marlyton, transformant son revolver en massue, étourdit l'Indien le plus rapproché de lui, s'empare de son couteau à large lame et le lui plonge dans le cœur. Mais Miss Aurette n'est point faite pour cette lutte sauvage à l'arme blanche. Un Guatuzo s'avance vers elle, les traits contractés. Affolée, elle veut fuir, ses jambes sont paralysées, ses pieds refusent de se détacher du sol. Poussant un cri terrible, le chancel et tombe évanoui. À son appel, Armand, effrayant d'épouvante, se précipite au-devant de l'Indien, mais son émotion nuit à la justesse de ses coups. La machette de son adversaire s'abat sur lui, il roule à terre auprès de Miss Aurette, qui l'éclabousse de son sang. Les sauvages vont triompher, les vaincus sont à eux, les hommes pour le scalp et la femme pour un supplice plus odieux encore. Mais, tout à coup, une fusillade nourrie éclate au dehors. Des balles sifflent comme des oiseaux de mort dans la troupe des Guatuzos. Stupéfaits, ceux-ci s'arrêtent, regardent autour d'eux. Une seconde décharge les décime. Cette fois, ils lâchent pied et ils abandonnent le rancho où sont étendus Labarède blessé et Miss Aurette évanouie, que, pétrifié, Sir Marlyton, couvert de sang, contemple sans comprendre encore quelle diversion inattendue vient de se produire.